Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Pascal. Pascal est le papa de deux enfants, deux jumeaux, une fille et un garçon. Il va nous raconter avec ses mots, avec sincérité et avec passion, comment s'est éveillée sa paternité, les bouleversements qu'ont entraîné l'arrivée de ses enfants, et surtout comment est-ce qu'il a pu changer de vie pour assumer sa paternité telle qu'il le souhaitait, et comment est-ce qu'aujourd'hui il en a fait une activité, et aussi comment est-ce qu'il a créé le blog Histoire de Papa afin de permettre à d'autres papas de raconter leurs aventures. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pascal.
Bonjour Cédric.
Et merci beaucoup d'être là. Je voulais vraiment prendre le temps d'échanger avec toi sur ta paternité qui m'intéresse beaucoup, puisque tu es père de deux jumeaux, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Des jumeaux qui ont 3 ans et demi.
Ah, c'est chouette, c'est un bel âge en plus. Et moi, ma première question, ça serait quand et comment est arrivé ton désir de paternité ?
Alors déjà, merci de me recevoir et d'échanger avec toi. C'est toujours chouette de pouvoir échanger effectivement sur la paternité. Et puis des papas qui peuvent s'exprimer sur le sujet, je pense que ça fait du bien aussi à la société. Donc c'est chouette, merci.
Je pense aussi, oui.
Donc voilà, merci pour ça. En fait, moi j'ai toujours su que je voulais être papa. Moi, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 4 ans. Mais pour autant, j'ai une sœur qui a 2 ans de moins que moi. Donc effectivement, ils ont divorcé assez jeune, mes parents. Mais pour autant, on a eu la chance d'évoluer dans une famille soudée et aimante. Je crois qu'on peut parfois peut-être mieux réussir son divorce que son mariage, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai assez vite compris avec le temps que mes parents avaient bien fait de se séparer et que c'était super OK pour eux et donc finalement pour moi. Et effectivement, ouais, une famille assez soudée, assez aimante, que ce soit au niveau de mes parents, mais également des grands-parents qui étaient extrêmement présents auprès de nous, auprès de ma sœur et de moi. Et donc, ce sujet de la paternité et de la parentalité, c'était presque un non-sujet pour moi. Voilà, c'était oui, je serai papa un jour. Par contre, j'avais aussi conscience du papa que j'avais envie d'être et donc du coup de la notion d'engagement, l'engagement en général, quel qu'il soit, moi, qu'il soit affectif, professionnel, voilà. Pour moi, c'est une valeur importante, la notion d'engagement. Et donc du coup, effectivement, pour être le père que j'avais envie d'être, il y avait cette notion d'engagement. Et j'avais ce truc de dire, je pense que j'ai besoin de vivre ma vie à moi pleinement avant de pouvoir être le papa que j'ai envie d'être. Et donc du coup, avec évidemment une sorte d'abnégation quand même de soi quand tu deviens parent. Voilà. Et du coup, je suis devenu père un peu sur le tard parce que tu vois, sur le tard, il n'y a pas d'âge non plus. Tu vois, voilà, le premier enfant aujourd'hui, c'est vachement décalé pour plein de raisons sociétales en France. Mais voilà, moi, je suis devenu père, j'avais 36 ans et ça m'a permis effectivement de vivre pleinement ma vie de jeune adulte. Alors que ça soit les études supérieures, mais que ça soit le job, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de fonder un couple solide, hein, là où la question de la parentalité, elle était là. Hein. Je crois que c'est au bout du premier mois, on en parlait. Et tu vois, le truc un peu drôle, c'est que les prénoms de nos enfants, en fait, ils ont été décidés sur le premier mois de mon couple, parce que c'était un sujet. Voilà, c'était comme ça. Et puis finalement, quand plusieurs années après, les enfants sont arrivés, en fait, on ne s'est même pas posé la question des prénoms parce que c'était une évidence. On les avait depuis le début. Mais donc voilà, ce besoin effectivement de se dire, j'ai besoin moi de me réaliser moi, de mieux me connaître, de connaître qui je suis, ce que j'ai envie de transmettre, de vivre des choses pour pouvoir être le père que j'avais envie d'être demain. Voilà. Et voilà, et on a été, c'est au bout de 8 ans de couple, où on s'est dit, c'est cool, on a une jolie vie, on en profite plutôt bien. Voilà, on voyage beaucoup, on reçoit plein d'amis, enfin, on a des amis solides, et puis on les reçoit beaucoup. Et puis à un moment donné, il y avait, ouais, c'est chouette, mais finalement, voilà, au bout de 8 ans, envie d'autre chose, et de dire ouais, c'est le moment. De dire tout ce qu'on a, tout ce que j'ai appris, bah aujourd'hui j'ai envie de le transmettre.
Et ça, c'est chouette. Donc, c'est vraiment ancré, tu vois. Enfin, moi, ce que je comprends, c'est que c'est ancré. C'était vraiment depuis toujours, ce désir de paternité, il était là. Et alors, pour le coup, avec je dirais, l'ancienneté de ce désir de paternité, qui a eu le temps de mûrir, qui a eu le temps de se préparer, qu'est-ce que tu as ressenti en apprenant la bonne nouvelle et qu'est-ce que tu as ressenti en apprenant que ça serait des jumeaux?
Comment dire maintenant? Alors déjà, nous, ça a été un long processus. Voilà, ça a pris plus de 3 ans entre le moment de dire allez, go, c'est bon, on a bien profité de la vie, maintenant on fonde une famille, et la naissance des enfants, ça a pris trois grosses années. Ce qui est bien, c'est long, c'est parfois un peu difficile, mais en même temps c'est bien parce que entre l'intellectualisation de je veux fonder une famille et la concrétisation, il y a un monde finalement, et quand le process pour le concrétiser, ce monde-là est un peu long, bah, ça permet finalement de se poser aussi beaucoup de questions, de se poser beaucoup de questions soi et de se poser beaucoup de questions à deux, et finalement d'être un peu plus près, je pense, à l'arrivée des enfants, même si encore une fois, il n'y a pas de vérité. Voilà, là, je parle de moi, ce que j'ai ressenti, mais évidemment, chacun a sa vérité. Donc voilà, voilà, au bout des 3 ans, c'est-à-dire, ça y est, enfin, ouais, des jumeaux, quoi. Voilà, comment dire, et en même temps de se dire, bon, ben voilà, c'est fait, c'est bien, on y est, et voilà, mais et avec un sentiment presque peut-être un peu ambivalent de se dire, on y est vraiment, on est bien dedans, et en même temps de grand bonheur parce que de se dire, ben voilà, on a réussi, et puis des jumeaux, c'est une expérience un peu particulière, je pense. Et alors, nous, on a eu la chance d'avoir un garçon et une fille. Je me sens bien, la première écho, c'était deux filles. Là, j'ai eu un petit moment quand même d'angoisse parce que du coup, il y a eu le côté donc des jumeaux et puis en plus deux filles. Et je sais pas pourquoi, c'était pas du tout ce que je m'étais projeté. Je m'étais imaginé un garçon et une fille, je m'étais imaginé deux garçons. Deux filles, je me suis dit waouh, gros bouleversement là quand même, parce que c'est peut-être pas le truc sur lequel je vais être le plus à l'aise, je sais pas. Donc, il y a eu un petit moment comme ça d'angoisse. Et puis finalement, l'écho d'un mois après, ça s'est révélé finalement être un garçon et une fille.
Alors c'est vrai que t'abordes le sujet du sexe de l'enfant, c'est vrai que il y a toujours ce côté comment dire. En fait, il y a pas de, comme tu le dis juste avant, il n'y a pas de vérité, si tu veux. C'est chacun la sienne. Parce que moi, en discutant avec plein de papas, c'est vrai qu'il y a des papas qui disent super, j'ai une fille, mais aussi parce qu'ils se projettent dans un environnement très protecteur. Il y en a un qui dit super, c'est un garçon, je saurais quoi lui apprendre parce que je vais lui apprendre des trucs de garçon. Bon, ça après, bien évidemment. Me connaissant, ça se discute fortement, mais en effet, on a ce truc en fait qui va nous rapprocher de ce qu'on a connu et qui peut être plus rassurant quand même. C'est vrai que on a tous ce côté-là. Et idem pour les femmes. Hein. Moi, ma compagne, elle était ravie d'avoir une fille pour notre premier enfant parce que quelque part, elle se sentait rassurée, si tu veux, c'est ça, tu vois, de se dire, ah, j'ai une fille. Moi, je suis une fille. A priori, je saurais comment
Ouais,
faire.
c'est ça.
Voilà, on a découvert qu'après, que bon, il y avait plein de choses qui vont très bien, peu importe le sexe et le genre, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement important, enfin qui peut être tellement important.
Mais là, ce que tu dis, moi, ça m'évoque quelque chose, et je crois qu'on est un peu raccord là-dessus. C'est un côté d'égalité entre les femmes et les hommes, et d'avoir, pour le coup, des jumeaux, et des jumeaux, effectivement, garçon-fille, c'est assez génial pour ça, parce que ça permet de leur transmettre et de leur apprendre tous ces sujets sur les stéréotypes de genre et sur l'égalité entre les femmes et les hommes au même moment et ensemble. C'est-à-dire que ce que t'as, ce que tu ces sujets-là, pour moi, c'est pas des sujets qui doivent être portés par les femmes, c'est un sujet qui doit être porté par les deux sexes, et donc du coup, c'est si on veut un monde plus égalitaire, c'est aussi aux hommes, et donc du coup aux jeunes garçons, à appréhender des comportements différents. Et c'est là où tu dis qu'après, voilà, il y a ton éducation, mais que tu transmets. Et puis après, un enfant, ça évolue pas juste avec ses parents, ça évolue dans une société. Donc du coup, il y a plein d'autres messages éducatifs qui arrivent, que ça soit au niveau nounou, ou ça au niveau crèche, au niveau école. Et tu vois, pourquoi je te raconte ça? C'est parce que on a eu là, moi, mes enfants, ils sont rentrés à l'école maternelle en septembre dernier. Et au bout de quelques semaines, on a eu mon fils qui avait un gros message en tête, qui partageait beaucoup avec nous, qui était de dire ben non, mais je sais pas, sur son camion de pompier, machin, Playmobil, pour ne pas citer la marque. Oui, les ah ben non, là c'est le garçon qui conduit parce que bah, les filles, ça ne peut pas conduire les camions de pompier.
Ah.
Ah bon? Pourquoi? Et d'où? Et voilà, et effectivement, évidemment. Pour moi, c'est important, donc on n'a pas laissé passer, mais pas voilà, juste en lui expliquant que, bah, évidemment que non, qu'il y avait des filles qui pouvaient conduire les camions pompiers, donc on a trouvé une pompière, je ne sais pas comment ça se dit, en Playmobil, pour qu'elle puisse elle-même, enfin, pour que ça puisse être incarné au-delà des mots, que bah si, regarde, voilà, et c'est chouette, et c'est de leur transmettre ça aux deux, mais et du coup de voir que oui, bah, ma fille, elle joue avec les voitures aussi, et voilà, et d'avoir des jumeaux de sexe différent, ça facilite l'apprentissage sur ces sujets-là, parce que nous, les jouets ne sont pas les jouets de mon garçon, les jouets de ma fille, pas du tout.
Mais oui.
Jouets, et donc, forcément, ça se mixe beaucoup plus. Donc, c'est. Ouais, des jumeaux, c'est plein de. C'est, voilà, il y a plein de choses un peu raides avec des jumeaux, mais il y a aussi. C'est facilitant, je trouve, sur pas mal de choses, en fait.
Ouais, mais c'est clair. Non, mais en plus, c'est vrai que. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que, comme tu le dis, ce sont les jouets des enfants, pas du garçon ou de la fille. Et en fait. Ils ont la possibilité de grandir dans un environnement où le sexe n'importe pas. Et pour le coup, derrière, ça leur donne des bases solides pour pouvoir dire bah, non, c'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Moi, j'ai toujours joué avec des voitures, donc je construis une voiture. Enfin, tu vois, ça peut, tu sais pas. Et je trouve ça super intéressant, là, tu vois, au bout de 3 ans et demi aussi, que vous arriviez à parler de tout ça comme ça. Et donc là, on est au bout de 3 ans et demi, mais au tout début, comment ça s'est passé les premiers moments avec tes enfants?
Alors, des moments très particuliers parce que, sans faire de généralité, mais les grossesses gémellaires, c'est toujours des grossesses qui sont un peu plus à risque. Donc, les grossesses gémellaires qui arrivent à terme, rarement, mais on va dire sur 8 mois et demi. Mais il y a quand même effectivement un gros risque de prématurité quand c'est des grossesses gémellaires. Et nous, c'était le cas, ils sont nés très prématurément puisqu'ils sont nés à 7 mois. Ils sont nés tout petits, puisque mon fils pesait 1,6 kg et ma fille 1,1 kg. Donc il est tout petit, hein, vraiment, 1,1 kg, c'est vraiment crevette. Et avec effectivement un diagnostic, alors c'était pas un diagnostic vital, mais c'était pas non plus, voilà, c'était pas folichon, quoi. 1,1 kg, hein, il manque quand même 2 mois de gestation pour grandir et pour arriver quand même dans ce monde, ça compte 2 mois.
Et ça fait beaucoup, oui, sur une grossesse de 9 mois, oui.
Ouais. Donc mon fils est resté 10 jours en couveuse et il est sorti de l'hôpital au bout de 3 semaines. Et ma fille, elle, est sortie de l'hôpital au bout d'un mois et demi, donc assez long. Donc effectivement, ce début de paternité, de parentalité, bah, ça a été un peu un tsunami. Moi, j'aime bien cette expression parce que je pense que quand on devient parent, c'est un tsunami qu'on se prend, même si on est prêt, même si on s'est posé plein de questions par rapport à ce que j'indiquais tout à l'heure. Pour autant, ça reste, encore une fois, entre l'intellectualisation et la réalité, c'est une grosse claque que tu te prends. Et avec une vague de... Bah, ouais, moi, j'aime bien l'image du tsunami parce que du coup, ça montre le côté de... Oui, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments différents. Et là, c'est ça, il y a beaucoup d'émotions qui sont très contrastées, qui sont très différentes. Et effectivement, quand en plus c'est des prémas, bah, là le tsunami il a une couleur encore un peu différente parce que c'est plein de bonheur, mais c'est aussi de l'inquiétude, parce que ton premier contact avec tes enfants et du coup ta parentalité, bah, elle est aussi connectée du coup avec une notion très médicale, avec des inquiétudes, des questionnements, des angoisses qui vont avec un apprentissage du coup de la parentalité qui est un peu spécifique, avec des tuyaux dans tous les sens, avec des tubes dans tous les sens, avec des bip bip bip, et tes premiers jours sont rythmés par ça, alors on a fait beaucoup de peau à peau, c'est encore plus important, c'est important toujours, et puis c'est un chouette moment pour les pères justement de rentrer en connexion très rapidement, mais c'est encore plus important quand c'est des prémas parce que ça y a plein d'études qui le démontrent et ça apporte beaucoup aux prémas. Donc beaucoup de peau à peau, mais en même temps, c'est pareil, c'est un peau à peau spécifique parce que c'est un peau à peau où tu dois pas t'éloigner des machines, parce que c'est du peau à peau relié au tuyau. En même temps, ça permet finalement, c'est ce qu'on s'est dit, ça permet d'avoir une session de formation assez intensive du coup, hein, avec le staff de l'hôpital. Donc t'es pas, tu sais, en mode voilà. T'as 3 jours et puis au bout de 3 jours tu rentres chez toi et je fais comment, hein? Là pour le coup nous voilà, on a eu finalement cette chance d'avoir une équipe on va dire auprès de nous de formation pour nous guider dans les premiers pas. Je pense que c'est toujours cette idée aussi, tu sais, face aux événements de quelles lunettes tu décides de choisir en fait et de quelles lunettes tu décides de mettre plutôt. Voilà, et alors bon, c'est facile de dire avec le temps qui passe et la réécriture forcément, mais même sur l'instant, c'est déjà ce qu'on disait en disant bah ok, bah, c'est comme ça. Donc, comment on peut faire pour le vivre le plus sereinement possible, parce que pour le coup, on était convaincus que notre sérénité était très importante pour les bébés, et donc l'enjeu il était là. L'enjeu il était de dire comment nous on peut gérer au mieux ce tsunami et ce tsunami émotionnel et ces inquiétudes. Pour les préserver et pour les aider à sortir de cette, c'est pas de cette prématurité, mais de cette naissance un peu particulière.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais j'ai des amis qui ont vécu la prématurité. C'est vrai que c'est un moment très, très particulier entre bonheur, angoisse. C'est comme ça qu'eux le décrivent. Tu vois, tu parles de tsunami émotionnel, il y a beaucoup d'émotions, en effet, qui ressortent et vraiment de tout type. Moi, je sais que personnellement, j'ai vécu une grande vague d'amour quand ma fille est arrivée, mais parce qu'elle est arrivée dans des conditions tout à fait classiques entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a plein de d'émotions. Et t'en parlais beaucoup là, tu étais beaucoup sur le à parler d'émotions et de tsunami émotionnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi sur le plan émotionnel? Est-ce que ça a débloqué des choses? Est-ce que ça a développé des choses qui étaient présentes? Est-ce que t'en as découvertes?
Il y a, oui. Je pense que quand tu deviens parent, tu découvres plein de choses sur toi. Il y a quand même un effet miroir assez intense et les conditions de naissance de mes enfants, je pense, ont eu un effet accélérateur, en fait, un effet loop sur ces aspects-là. Je te disais, ce que je te disais là à l'instant, c'est que nous, il y a eu cette conscience de dire, comment être le plus serein possible pour préserver nos enfants, pour nous, pour moi, mais aussi pour nos enfants. Ça, la notion d'harmonie, c'est quelque chose, moi, qui est que c'était pas forcément quelque chose qui était présent chez moi et qui est devenu clé, qui est vraiment devenu clé. C'est-à-dire que ce qui me guide aujourd'hui, c'est ça, c'est comment préserver l'harmonie. On sort de la période du confinement, enfin on sort depuis quelques temps maintenant, mais quand même, l'enjeu pour moi du confinement, mais le premier jour, ça a été de dire que peut-on mettre en place pour préserver émotionnellement les enfants et nous. Il n'y a pas d'autre enjeu. Le seul enjeu, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'ils sortent de cette période inédite, pas bousculés et préservés. Et donc, la réponse à ça, c'était qu'on arrive à mettre en place, ou en tout cas, pas à mettre en place parce qu'on l'a déjà, mais à préserver l'harmonie et la sérénité la plus importante. Donc, il y a ce point-là. Il y a la notion de, pour moi, qui est aussi très importante, de peur. Qui est quelque chose qui a un peu disparu chez moi. Alors, ça pourrait paraître un peu surprenant par rapport à la naissance de mes enfants et à la prématurité, mais finalement, effectivement, il y a eu ce moment de se dire « Ok, c'est compliqué, mais au final, on y arrive, on arrive à gérer, on arrive à dépasser justement nos angoisses. » Et moi, j'ai ce souvenir d'être assis dehors, tu vois, sur les marches de l'hôpital. Ça paraît un peu… Ça peut paraître presque un peu ésotérique, mais je te le partage vraiment dans la façon dont je l'ai vécu. Et d'avoir, voilà, je suis assis sur ces marches-là dehors et de sentir, tu vois, le mot peur comme un nuage qui sort de ma tête et que je vois complètement disparaître au loin. Et de se dire, bah, du coup, on y arrive, on fait face. Non seulement on devient parent, mais en plus dans des conditions un peu raides. Et pour autant, on y arrive, on est là. Avec du coup, en plus, c'est ce que je disais, mon garçon, il était à l'hôpital, il est sorti au bout de 3 semaines, ma fille au bout d'un mois et demi. Donc en fait, en plus, tu gères même pas le début de la parentalité à 4, parce que tu es obligé de switcher en mode, tu vois, voilà, pour qu'il y en ait toujours un des deux parents avec l'enfant. Donc tu n'as même pas de moment vraiment à 4, puisque quand mon fils est sorti de l'hôpital, tu n'as plus moyen de revenir avec dans l'hôpital pour tous les aspects sanitaires. Donc voilà, donc tu n'as pas de moment à 4 en fait, donc pendant un mois et demi, donc c'est un peu bizarre. Et se dire, ouais, on arrive à dépasser ça. Et ce moment, ouais, qui est très clair de dire, je n'aurai plus jamais peur dans ma vie, dans tout ce que je vais faire. Et que ça soit sur l'aspect moi perso, professionnel, mais que ça soit dans ce que je vais faire avec mes enfants. Et tu vois, sur l'aspect médical, et puis après, on va peut-être clôturer cet aspect qui n'est pas le plus funky, mais qui fait partie de la vie aussi en même temps. Très rapidement, en fait, 3-4 ans après, en fait, il a été diagnostiqué finalement plus qu'un souffle au cœur pour ma fille, mais parce que né 1,1 kg, donc tout n'avait pas pu se développer dans les bonnes conditions. Et en fait, elle ne mangeait pas, c'est-à-dire qu'elle régurgitait non-stop, et toute son énergie, elle le mettait dans sa respiration, et donc l'alimentation, c'était trop compliqué pour elle. Sauf que si elle ne mange pas, elle ne grandit pas. Déjà que c'était un tout petit bout, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, sur son cœur qui faisait 3 cm, il y avait un trou d'un centimètre. Hein, donc, c'est énorme. Et donc, du coup, il a fallu lui faire une opération à cœur ouvert. Elle avait 6 mois. Et en fait, on est arrivé à cet hôpital qui n'était pas chez nous parce que c'était un truc spécialisé, donc bref, sur Paris. Et on a vu les autres parents qui étaient là pour le même typologie d'opération. On a pu voir tout, pour le coup, le nuage d'angoisse qui était autour d'eux, que je ne juge pas, que je comprends. Mais nous, par rapport à ce par quoi on était passé, ben en fait, du coup, on était hyper en confiance. On disait, ça va bien se passer. Moi, je me souviens, ma maman, elle est venue du coup pour regarder mon fils pendant qu'on était pendant 10 jours pour l'opération de ma fille. Et la veille, elle me dit, mais tu te rends compte quand même là, demain, c'est une opération à cœur ouvert. Ouais, de ta fille. Qu'à 6 mois. Ouais, je m'en rends compte. Mais c'est OK, ça va bien se passer. Je lui fais confiance. Je nous fais confiance. Et je fais confiance au personnel médical. Ça va le faire. Et de toute façon, elle en a besoin. Sinon, ça va être pénalisant pour toute sa vie pour elle. Et c'est pas lui donner les meilleures chances. Et en fait, nous, on a besoin j'ai besoin d'être fort et de ne pas avoir peur pour qu'elle, elle se sente en sécurité par rapport à ça. Donc, ouais, cette notion de peur, qui est quand même une émotion forte qu'on connaît tous, et ça, la parentalité, la paternité, moi, me l'a fait vraiment me connecter à elle, mais pour m'en débarrasser.
C'est super intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai pas rencontré encore. Donc ça m'intéresse beaucoup, mais c'est chouette, enfin c'est génial d'avoir un changement comme ça où... Alors je me demande quand même si c'est pas tant la peur qui est partie que la confiance qui s'est installée, tu vois. Je sais pas, ça c'est à toi de me dire, mais moi quand je t'entends parler, je vois surtout, j'entends beaucoup une vraie confiance en la vie, en l'enfant, en ce qu'on est capable de faire, tu vois.
Mais t'as raison, mais je pense que la confiance est une réponse à la peur, en fait. Finalement, sont assez connectés. Mais effectivement, quand tu dis confiance, c'est hyper large, c'est la confiance vraiment en la vie. Alors, encore une fois, sans être ésotérique et de, voilà, le côté... mais je pense... Pour le coup, je crois quand même, du haut de mes 40 ans que j'ai eu là il y a quelques mois, mais que si tu fais confiance en la vie, elle te le rend plutôt bien. Et c'est une histoire de posture, de ce en quoi tu crois. Et du coup, ce que tu dégages amène quelque chose à toi, en fait. Donc oui, la confiance en la vie, la confiance en soi, du coup, forcément, et la confiance en ses enfants, et leur apprendre à avoir confiance en eux, voilà, clairement. Mais et ça, ouais, moi, c'est un des leviers d'éducation. Pour moi, le rôle, mais c'est pareil, hein, c'est ma vérité. Non, mais je trouve que je vais souvent répéter ça, mais c'est parce que c'est important pour moi. Je trouve que dans la notion de parentalité, il y a énormément d'injonctions, et moi, c'est quelque chose avec lequel je suis pas hyper à l'aise. Et je trouve que c'est toujours important pour moi, en tous les cas, de mettre des pare-feux, en tous les cas, en disant que c'est, voilà, il y a pas de vérité universelle. Mais ouais, pour moi, un des rôles clés des parents, c'est de faire en sorte que l'enfant soit j'allais dire armé, le mot n'est pas très joli, mais en tout cas, et les ailes suffisamment fortes pour s'envoler. Et donc, du coup, c'est lui apprendre effectivement l'estime de lui et la confiance en lui et en la vie. Parce que je pense que quand tu as ça dans tes deux ailes, tu peux faire tout ce que tu veux. Et alors, faire tout ce que tu veux, tu mets tout ce que tu veux. Justement, tu mets tout derrière. Il ne s'agit pas de réussite, mais c'est de bonheur, en fait. D'aller où tu as envie d'aller et d'être aligné avec ce que tu as envie d'être, avec ce en quoi tu crois. Donc, ouais, nous, c'est quand même assez des piliers éducatifs. Vraiment, ces sujets-là, ouais.
Écoute, moi, je peux que te rejoindre. Moi, mon grand objectif pour ma fille et mes futurs enfants, sûrement, c'est le développement de la conscience de soi et de ses besoins, savoir comment y répondre. Et pour le coup, qu'est-ce que tu as mis en place qu'est-ce que vous avez mis en place pour développer ça? Est-ce que pour le coup, cette paternité, cette parentalité, ça vous a amené aussi des réflexions vis-à-vis, notamment un sujet que je traite régulièrement, c'est des violences éducatives ordinaires? Est-ce que à un moment vous avez lu des trucs, vous êtes renseigné, vous avez eu des déclics? Comment ça s'est passé cette mise en place de l'éducation?
Tu parlais des émotions et moi je pense que c'est quand même une des colonnes vertébrales d'être connecté à ses émotions et d'apprendre ça, de l'apprendre à ses enfants. Et très vite, je pense que les enfants c'est des êtres intelligents, même bébés, même petits.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Des êtres intelligents et en tout cas des êtres apprenants. Voilà, on le dit, les enfants sont des éponges. Et c'est trouver ce juste équilibre. La notion d'équilibre aussi, de curseur, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, les façonner tout en leur laissant la liberté d'être ce qu'ils sont. C'est pas facile comme équilibre, hein, finalement.
C'est compliqué comme exercice, oui.
Ouais, l'exercice n'est pas simple, mais déjà d'en avoir conscience, en fait, je pense que ça aide à poser justement le juste curseur. C'est effectivement de leur donner les outils et les clés. En fait, c'est ça, c'est leur donner les clés et les outils pour être eux-mêmes. Mais pour être eux-mêmes, il faut déjà qu'ils aient conscience de voilà. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, dans ce que je suis, a énormément d'empathie. Tu parlais de ce que la paternité m'avait appris. Moi, ça m'a permis de mieux doser mon empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui est canon, moi, j'adore, mais ça peut être aussi très, très débordant. Et moi, et avec des enfants, ça peut l'être d'autant plus. Et moi, j'ai appris à mieux la doser, mais aussi à aborder l'empathie sur un angle que je n'avais pas du tout, qui est l'empathie envers soi. Souvent, dans les schémas qu'on connaît, l'empathie, elle est tournée vers les autres, mais à mon sens, on oublie que l'empathie, ça doit être aussi tourné vers soi. Et on retrouve cette histoire d'équilibre, en fait. Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. Donc voilà, mais comme pour être bien à deux, il faut être bien avec soi. Enfin, voilà, je pense que c'est encore une fois, on est acteur de sa vie et donc je pense que la connexion à soi, c'est le moteur qui fait que les autres choses après déclinent. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on a abordé très vite avec les enfants, d'arriver à leur parler comme à des adultes, hein, clairement. Mais là, je pense que je dis pas une banalité, mais on est en tout cas de plus en plus nombreux à
le dire. Non, tu fais bien de le préciser, je pense.
Ouais, ça fait toujours du bien, mais voilà, nous, on leur parle vraiment absolument, mais des bébés comme des adultes. Avec des mots évidemment choisis, mais quoique en même temps, voilà. Et effectivement, de leur apprendre très vite les émotions. Là, moi encore, ils ont 3 ans et demi, mais ça reste petit 3 ans et demi, mais même déjà depuis un an déjà, ils arrivent à poser les mots sur leurs émotions. Alors, sur des émotions basiques, je suis triste, je suis en colère, je suis heureux. Alors, c'est drôle de les entendre. Parfois, ce n'est pas forcément bien utilisé, mais au moins, ils posent des choses. Et moi, je crois beaucoup en l'exemplarité. je pense que c'est, je te parlais d'engagement, qui était quelque chose dans laquelle je croyais, mais la notion d'exemplarité, je pense qu'elle est forte. Et je pense que quand on est parent, c'est d'autant plus important. Et donc, du coup, c'est de leur faire comprendre, pour poser leurs émotions et pour poser les justes mots, bah, c'est déjà de les incarner soi. Mais, et tu vois, je peux te donner un exemple hyper récent. Ce week-end, là, ils ont repris l'école pour 2 semaines. Enfin, là, c'est déjà fini, mais la semaine dernière et cette semaine, après 3 mois off d'école, c'est forcément des moments un peu intenses pour eux de se reconnecter au monde, à la société, aux règles. Ils ont suivi nos règles, mais c'est des règles en société qui sont encore différentes. On l'appréhendait très bien, on savait que ça allait être un peu compliqué au moins la première semaine, et ça a été le cas. Et du coup, le week-end dernier, ça a été, au bout d'une semaine d'école, ça a été très difficile pour eux. On le savait, on l'avait appréhendé, voilà, donc ok, on leur laisse l'espace, mais en même temps pour nous, c'est aussi difficile. Et dimanche midi, voilà, au bout de l'énième crise, à un moment, moi, j'en pouvais plus. Et je leur ai dit, ils m'ont sollicité pour jouer. Je dis, je peux pas, en fait. Là je suis pas capable. Là, je suis en colère contre vous. J'ai besoin de me calmer. Je comprends votre état, mais c'est compliqué pour moi. Et laissez-moi un peu de temps, que je revienne un peu à moi, et je serai disponible. Et là, tout de suite, je suis pas disponible. Et c'est comme ça. Et en fait, ils entendent, ils comprennent, ils m'ont laissé l'espace, ils sont allés jouer tous les deux, du coup. Je sens moi, déjà que leur empathie elle est très développée, donc, parce que du coup, toutes les 10 minutes, ils venaient en disant « ça va mieux, papa? Est-ce que tu veux que je te fasse un câlin ?» Et donc, du coup, ils me prenaient dans les bras, ils faisaient un câlin. « Est-ce que ça va mieux ?»« Oui, merci, mais ce n'est pas encore le moment pour moi. » Voilà. Et voilà, et je trouve ça chouette de pouvoir partager ça avec eux. Et je pense qu'effectivement… ça peut faire du bien à la société en général de développer ce genre de compétences douces, comme on appelle, aux enfants.
Et oui, non, mais c'est sûr que le développement des émotions, c'est essentiel. C'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on apprenne à les accueillir, à les accueillir, à les accompagner, non plus à les gérer, comme on a souvent dit, notamment dans les entreprises. Et justement, ça m'amène à cette autre question, puisque bon, c'est un petit peu... ce que tu défends, c'est les changements de vie, comment organiser sa vie. Alors toi, pour le coup, ça a pris quelle forme, comment est-ce que tu as changé de vie pour pouvoir absorber cette parentalité?
J'ai bossé pendant 13 ans dans un gros cabinet d'avocats d'affaires, sur des fonctions, je suis pas avocat, donc sur des fonctions plutôt de communication et de développement, pour faire simple. Voilà, c'était canon, j'ai appris plein de choses. J'étais un peu, voilà, c'est toujours la caricature du jeune cadre dynamique, donc avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de, puis alors avec ma notion d'engagement, voilà, donc j'étais très à fond. Voilà, beaucoup de déplacements parce que j'avais une équipe sur toute la France. Gros statut social, c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent, donc j'avais aussi une grosse rémunération. Et effectivement, quelques mois avant la naissance de mes jumeaux, je me suis posé la question de quel père j'avais envie d'être, et ce que j'étais professionnellement, ça matchait pas, ça collait pas. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de la notion d'exemplarité, et effectivement, je me suis dit, ce que je veux transmettre à mes enfants, il faut déjà que je le sois. Et là, ça fonctionne pas. Donc, j'ai fait ce choix, effectivement, de quitter ce job confortable de salariat au moment où tu, quelques mois avant la naissance d'un enfant. Et alors, en plus de jumeaux, tu vois, donc tu as tout le monde qui te dit, mais t'es ouf ou quoi? Il y a les couches et puis des jumeaux, quoi. Donc, voilà. Et moi, je me dis, non, au contraire, c'est le moment. Ça va être une nouvelle page à écrire. Autant l'écrire pleinement. Et je suis parti, en plus. Alors, j'ai négocié mon départ, mais sans savoir exactement ce que je voulais faire. Ce que je savais, c'est que j'avais besoin de temps pour être auprès de mes enfants. C'était le moteur. De faire un job qui fasse plus de sens, qui fasse plus sens pour moi. Et une notion, tout à l'heure, tu m'as posé la question de ce que la paternité m'a apporté. Et il y a un point que j'ai oublié, alors que c'est hyper clé chez moi. J'ai parlé de plein de choses, mais pas ça. C'est la notion de liberté. Alors la liberté, mine de rien, quand t'es parent, t'en perds beaucoup de liberté, mais je pense que tu la redessines différemment. T'en perds parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, surtout si t'as envie d'être très présent. Mais finalement, derrière le mot liberté, c'est un mot qui est un peu galvaudé en plus, mais tu y mets plein de choses. Et moi, il y avait ça comme moteur. Il y avait de se dire qu'est-ce que je pourrais définir comme liberté pour moi. Et voilà. Et donc, du coup, ça fait effectivement 4 ans que je suis indépendant et alors, je suis ce qu'on appelle le terme sociologique slasher, donc de la barre slash de nos claviers de smartphone ou d'écran. C'est-à-dire que j'ai plusieurs activités qui sont séparées par des slash. Donc voilà, donc j'ai une activité de conseil en communication et management qui correspond à mon métier d'avant. J'ai une activité d'intervenant en école supérieure qui était quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps, mais c'est le même moteur de ce pourquoi j'ai voulu être père en fait, hein, donc la notion de transmission et de se dire, je trouve que le monde il fonctionne parfois un peu bizarrement. Si moi je peux planter des petites graines sur des étudiants en école supérieure pour que demain ils soient en entreprise, peut-être un peu plus connectés avec eux-mêmes, connectés avec leur environnement, plus éthique, plus responsable et en responsabilité, bah ça peut être cool. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais qui m'amuse beaucoup, en essayant d'être en plein d'humilité, de dire voilà j'essaie de planter des petites graines. Après ça m'appartient plus, ça m'appartient pas les arroser. Moi je plante les graines. Après c'est la responsabilité individuelle de les faire grandir aujourd'hui, demain, dans 10 ans, voilà. Donc voilà, j'ai créé donc un blog qui s'appelle Histoire de papa. Je l'ai créé un an après la naissance de mes enfants. Et alors du coup avec la magie effectivement du web, ça ouvre plein de champs des possibles. Et donc ce blog m'a permis d'auto-éditer un premier livre, de développer une activité de conférencier sur le sujet de la paternité, que ça soit à destination de parents ou futurs parents, mais ou à destination d'entreprise, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau entreprise sur le sujet. Voilà, et puis plein d'autres projets qui sont à venir. Voilà. Et l'idée d'Histoire de papa, c'était de dire, il y a 2 ans et demi, il y avait assez peu d'espace qui était dédié au papa. Je crois qu'il y avait assez peu de ressources. Moi, quand j'ai commencé à me documenter, je trouvais que c'était très porté par les mères, mais assez peu par les pères. Alors que moi j'avais plein de pères qui étaient très présents autour de moi et je me suis dit mais en fait il me manque quelque chose là-dessus. Alors depuis on est nombreux et enfin on est nombreux, on est de plus en plus nombreux et c'est très bien. Au contraire, je pense que plus on est nombreux plus le message infusera donc c'est très bien. Mais l'idée c'est ça, c'était de se dire j'ai envie d'un espace qui soit pas juste moi je ma vie. En plus je pense que quand tu deviens parent tu te dénombrilises et donc j'avais besoin de ça aussi et de dire je veux un espace qui soit pas juste moi je d'où le histoire de papa avec des S à histoire et à papa qui était de dire j'ai envie de raconter des parcours de papa, des histoires de papa pour que ça puisse inspirer et donner des clés à d'autres papas. Et l'idée, c'était de dire, si moi je parle que de ma vie, peut-être que Jean-Michel, ça va pas du tout lui parler de ma vie. Par contre, si je parle parfois de ma vie, mais s'il y a Maxime qui parle de sa vie, s'il y a Olivier qui parle de sa vie, s'il y a, voilà, peut-être que Jean-Michel, il va trouver un peu de clé là, un peu de clé là, un peu de clé là. Et puis il y avait aussi, mais on en a parlé un peu tout à l'heure, cette idée un peu d'égalité femmes-hommes, de féministes que j'ai un peu en moi. Alors, je l'avais déjà, et puis alors, en étant parent, effectivement, d'une fille, mais et d'un garçon aussi, mais c'est d'autant plus important pour moi, de se dire, voilà, je pense que libérer la parole sur la paternité, c'est impacter sur la notion d'égalité femmes-hommes, et j'avais envie de contribuer à ça. Voilà. Et donc, toute cette nouvelle vie, c'est ça qui me permet finalement d'avoir du temps et d'avoir vachement de ouais d'avoir beaucoup de temps pour mes enfants et c'était vraiment mon choix, c'était guidé par ça. C'est quelle échelle tu souhaites, voilà, encore une fois l'échelle de valeur, est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est l'argent et le statut social ou est-ce que c'est le temps et le sens. C'est un peu caricatural ce que je dis parce que j'oppose des choses et tout n'est pas forcément, les choses ne sont pas binaires. Mais voilà, pour moi, c'était ça. Mais vraiment, c'était la notion de liberté. Liberté de faire ce dont j'avais envie ou besoin et d'avoir du temps pour mes enfants. Se dire, voilà, moi, il y a au moins une fois par semaine où je vais les chercher à l'école. Je suis dans 95% des cas à 18 heures à la maison. Je n'ose pas trop dire, mais voilà, j'ai beaucoup de vacances parce que la façon dont j'ai construit mon activité, j'ai la chance que ça. Alors, la chance, et puis je pense que l'engagement aussi que tu y mets, hein, les choses ne se font pas toutes seules en restant, parce que j'ai toujours assis sur le canapé à regarder Motus, mais voilà, c'est aussi beaucoup d'énergie que tu mets, mais tu le mets parce que tu sais pourquoi tu le mets, c'est complètement différent en fait. Tu le sais, tu mets cette énergie-là parce que dans que tu fais dans tes activités professionnelles font sens, et en plus tu le fais parce que ça te libère du temps. Et effectivement, de se dire là, moi cet été, tu vois, j'ai quasiment tout l'été avec mes enfants, toutes les vacances scolaires. C'est en moyenne, je travaille plutôt sur, tu vois, on va dire sur du 4 jours par semaine. Ouais, voilà, c'est canon, c'est canon. En tout cas, moi, voilà, c'était en tout cas, c'est canon, c'est ce que je souhaitais faire moi, et voilà.
Non mais c'est super intéressant de savoir qu'on peut changer de vie, qu'on peut réajuster. On est un peu enfin moi je me reconnais totalement dans ce que tu dis puisque j'ai moi-même quitté mon travail qui était aussi très confortable, mais enfin très confortable par rapport à mon statut social, mais pas du tout confortable par rapport à ma famille puisque j'en souffrais beaucoup. Et puis ben voilà, à un moment tu dis ben non stop, c'est pas ça que je veux. Où sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et puis l'argent, oui, c'est un sujet. Maintenant, je m'en rends compte très sincèrement depuis quelques mois que ouais, c'est un sujet. Mais on peut faire, enfin, on peut vraiment composer avec. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et pour avoir, pour le coup, rencontré plein de parents au foyer maintenant et plusieurs pères au foyer, mine de rien, tout ça, c'est possible. Il faut vraiment changer. Alors, c'est vrai qu'il faut changer. Il faut changer des paramètres, il faut changer aussi comment est-ce qu'on souhaite être perçu, tout ça. Donc c'est super intéressant à faire, quoi.
C'est changer de paradigme, c'est réinventer, mais moi je trouve que quand devenir parent, c'est aussi réinventer beaucoup de choses en fait. Et c'est ça, c'est aussi déconstruire et pour reconstruire la place qu'on souhaite avoir en fait, mais la place qu'on souhaite avoir dans sa famille et dans son activité professionnelle. Je pense que les deux sont connectés en fait. Et puis après, moi, mon exemple, il est, mais on est quand même de plus en plus nombreux à le faire, ce choix, tu vois, qu'on a fait là tous les deux, mais je pense que c'est important aussi de dire qu'on n'est pas obligé de passer par ces choix-là. Il peut y avoir des ajustements, justement. Nous, on est peut-être un peu, on a été un peu, voilà, radical dans nos choix, mais il y a d'autres façons de faire. Moi, j'ai interviewé un jeune papa qui s'appelle Maxime, qui habite dans le sud de la France. Et Maxime, en fait, il était commercial, il bougeait non-stop, commercial, hein, donc voilà, non-stop sur les routes. Et quand il est devenu papa, il s'est dit, mais ça marche pas pour moi. Parce qu'il voulait être plus présent. Et en fait, il a négocié avec son boss de devenir commercial sédentaire, ce qui lui permettait en fait de terminer à 16h00 et d'aller à la crèche, enfin à la crèche puis à l'école tous les jours pour chercher son fils. Donc voilà, c'est pas un gros changement de vie. Il a gardé son job, son entreprise. Il a réussi à, déjà, il a réussi à être conscient de ce dont il avait envie. Il a réussi à assumer son envie. Quand on a un homme, il y a quand même un rapport au job qui est particulier en France, hein, dans le schéma patriarcal tel qu'on le connaît. Et donc, il a réussi à assumer ça et à faire cet ajustement-là. Et donc, oui, tu sais, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, bah, ouais, je gagne moins de thunes. Après, j'ai trouvé des solutions. Il a développé un compte sur Instagram qui lui permet de glaner, tu vois, 200 balles en plus tous les mois. Alors ça compense pas, mais voilà, mais par rapport à la liberté, encore une fois, on y revient, qu'il a, voilà. Mais tu vois, c'est pas un gros changement de vie. Je pense qu'on peut faire plein d'ajustements aujourd'hui, que ça soit sur le télétravail, le télétravail. J'ai interviewé un papa, il s'appelle Olivier. En fait, avec sa femme, ils ont décidé de faire l'instruction en famille. Qui est quelque chose que moi que je connaissais pas et que je trouve hyper intéressant, j'ai
Que je
découvert.
compte faire aussi.
C'est vrai?
Ouais.
Eh bien, écoute, je connaissais pas du tout et je trouve qu'il y a beaucoup à communiquer là-dessus du coup. J'en ai interviewé deux, ça m'a donné envie d'en interviewer un deuxième et d'essayer pareil de contribuer peut-être à donner une image un peu différente. Je trouve qu'il y a une image, une croyance sur l'instruction en famille qui est très de repli sur soi alors que c'est absolument l'inverse. puisqu'en fait, de ce que j'ai compris, voilà, ça s'organise entre familles, donc avec plein d'enfants. Voilà, enfin, c'est finalement très ouvert sur le monde et pas du tout dans cette image de repli sur soi, de déconnexion dans une bulle que je trouve qu'on peut avoir quand on ne connaît pas le sujet.
Je te dédicacerai l'épisode sur le sujet, si tu veux.
Ah bah, canon, canon. Non, mais vraiment, c'est un sujet mais passionnant, vraiment.
Ouais, ça l'est.
Moi, du coup, je me suis interrogé, et moi, je ne m'en sens pas capable, parce que ça demande, alors, pour le coup, effectivement, beaucoup de donner un espace-temps très fort. Voilà, donc moi, je m'en sens pas capable, et du coup, je suis très admiratif de ceux qui... De ceux qui le font, donc bravo Cédric de ce que tu as à faire. Mais du coup, et lui, tu vois, ce papa là, Olivier, ce qu'il a négocié avec son boss, du coup, c'est des horaires décalés. Donc en fait, il bosse de 7h du matin jusqu'à 15h. Sa femme, elle, c'est plutôt l'inverse. Et donc pareil, il a gardé son job, c'est juste qu'il a ajusté. Et je trouve que c'est ça qui est important aussi. Je ne veux pas faire passer le message, je ne voudrais pas que mon message soit déformé, qui est de dire il faut absolument changer absolument de vie complètement pour être engagé dans sa paternité. Je pense qu'on est aussi dans la génération de on veut tout, tu vois, de choisir, de ne pas choisir. Et en même temps, je trouve qu'on a une chance en France de pouvoir le faire en fait. On est quand même dans un pays, on l'oublie parfois, mais de grande liberté, où on peut monter sa micro-entreprise en 15 minutes. On peut faire plein de choses aujourd'hui. On peut se connecter à plein de monde pour imaginer plein de champs des possibles, encore une fois. Le confinement a accéléré, le télétravail, ça va donner de plus grandes options de liberté, je pense, pour mieux concilier. Donc voilà, donc je pense que c'est la question, c'est de dire, moi j'ai envie de quoi et du coup, que puis-je mettre en place pour m'en rapprocher au maximum? Mais ça passe parfois par des tout petits ajustements, mais ça commence par la conscience de soi et de ses envies, je pense.
Mais écoute, ma dernière question que je pose toujours en interview, je pense que tu as bien partiellement répondu, c'est souvent, je termine en disant, quel conseil pourrais-tu donner aux pères et aux parents qui nous écoutent ou à ceux qui vont le devenir sur la gestion de leur temps et de leur vie pro et sur le fait de devenir parent. Écoute, est-ce que tu souhaites rajouter un élément sur cette question?
Non, mais c'est vrai qu'on a, du coup, on en a pas mal parlé. Je pense qu'effectivement, de se dire qu'il n'y a pas de chemin universel, il y a son propre chemin. Oui, il y a une expression que j'aime bien, c'est se trouver soi pour trouver sa voie. Donc voilà, donc je pense que ça commence par s'interroger sur soi, effectivement, et sur ses envies. Se dire qu'effectivement on est dans un monde aujourd'hui, mais vraiment moi j'en suis persuadé, où tout est possible. On se dit parfois qu'on se met beaucoup de barrières, mais qui sont des croyances. On va pas faire de la psy, mais des croyances, ce qu'on appelle les croyances limitantes, ça peut être transformé en croyances aidantes. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui on a cette chance là de vivre dans un monde où tout est possible, et quand on se dit que c'est pas possible, c'est aussi toujours cette histoire de lunettes qu'on porte sur notre vie, et peut-être oser se dire bah oui, je peux avoir les deux, je peux être heureux dans ma vie de papa et dans mon job. Je pense qu'il y a aussi une histoire de pas être dans l'utopie, d'être pragmatique. Moi, je dis toujours, voilà, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, en fait. On revient dans cette histoire d'équilibre, finalement, de curseur dont je parlais au début. C'est comment trouver ce juste point-là. Avoir confiance, on en a parlé. Confiance en la vie, confiance en soi, confiance en ses enfants. Et du coup, de se dire, tout passe. Moi, c'est un truc que j'aurais adoré qu'on me dise avant. Alors, peut-être que je ne l'aurais pas entendu en même temps. Mais des moments qui te paraissent hyper intenses, et te dire, mais comment je vais faire pour dépasser tout ça? Et finalement, les moments, la vie fait que les moments, mine de rien, restent assez évanescents. Et que sur l'instant, ça apparaît une montagne. Et puis, avec le temps qui passe, la montagne, c'est un caillou que tu regardes de loin. Tu vois, et ça, se dire que d'essayer de prendre les choses, même dans l'instant, avec un peu plus de légèreté, même si c'est des moments lourds, parce que la vie, elle est pas. Et on vit pas au pays des bisounours, ça, on est bien d'accord. Il y a plein de moments difficiles dans la vie, mais je pense que tu peux aussi te dire, voilà, ayons confiance et ça passe. Et puis de se dire que rien n'est figé, qu'on apprend. Moi, le père que je suis aujourd'hui, avec mes enfants qui ont 3 ans et demi, je ne suis pas le même que le père que j'étais à la naissance de mes enfants. Voilà, on apprend de ses erreurs, bien plus d'ailleurs que de ses succès. Donc voilà, on apprend et que la vie, c'est ça, c'est la vie, ouais, c'est ça. C'est apprendre et d'essayer d'être une. Alors, j'allais dire une meilleure version de soi, pas dans la notion de performance, mais dans la notion de chemin sur le bonheur, quoi, sur la route du bonheur. Voilà.
Eh bien, complètement. Moi, je te rejoins complètement. Merci beaucoup, Pascal, pour ce moment. C'était très sympa.
Merci, Cédric. Merci vraiment.
Je te dis à bientôt. Salut.
Ciao.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.